sur un texte dans Sanhedrin. Adam le Amal Yulad, Eni Yodea im le Amal Melacha, im le Amal Sicha, im le Amal Torah. Pour conclure, Lo Yamush Sefer HaTorah Azeh Mipicha Ve'Agitabo Yomam Ve'Laila. Dans le texte de la Gemara Sanhedrin qu'on avait lu, l'accent il était mis sur Amal, comment on rencontre le Amal à tous les étages, à tous les niveaux. Le Amal, c'est l'effort. Et aujourd'hui, on va essayer de réatterrir sur le même pasouk, Lo Yamush Sefer HaTorah Azeh Mipicha Ve'Agitabo Yomam Ve'Laila, mais pas par le biais de Amal, mais par le biais de Osher.
J'interviens tout de suite. N'hésite pas à bien traduire tous les termes hébreux que tu emploies. Merci d'avance.
Alors, Osher, c'est le mot qu'on n'a pas besoin de traduire ce soir, puisque vous le connaissez bien. Et il se trouve que la Gemara le met en rapport avec Lachon Ashurit ou Ktav Ashurit. Ashurit, de Ashur. Alors, Ashur, c'était le prénom d'un des enfants de Shem. Shem, il a eu Ashur, Arpachshad. Arpachshad, il a eu Shelach. Shelach, il a eu Ever. Donc, Ever, Ivri, Ashur, Ashuri, c'est des enfants et des petits-enfants de Shem. Et Shem lui-même, il est appelé Avi Kol Bene Ever. Ça veut dire la grande famille des enfants de Shem, elle s'appelle Ever. Dans cette famille, il y a Ashur, Ashur et Ashurit. La Gemara dit aussi Ashurit, Sheba, Shealai, Maem, mais Ashur. Ashur ici, c'est une terre, ça peut être donc une terre, là où habitait Ashur. Ashur, c'est aussi quelqu'un qui s'est enfui pendant la construction de la tour de Babel. Rashi rapporte ça Ashur, Minaharet Saï Yatsa Ashur, de cette terre est parti et sorti Ashur, parce qu'il a fui la construction de la tour de Babel. Donc Ashur, qui donne aussi Ashurit. Ashur, c'est le prénom du fils de Shem. Ashurit, c'est la langue ou l'écriture qui vient de Ashur. Mais le mot Ashur, comme le mot Asher, dans la Torah, il a aussi son champ de signification. D'où que Ashur comme Asher, c'est la même racine de comme Ashré, mais Ashur, ça a en plus de Ashré, que c'est au passif, Ashur. Comme si c'était un état passif de Osher, Ashur, Ashurit. Voilà. Alors maintenant, on va commencer la lecture du texte de ce soir. Donc c'est une Mishnah. Et la Gemara, elle vient du Yerushalmi, dans Megillah. En ben sfarim litfilin ou mezuzot, ela sheasfarim nirtavim bechol lashon, utfilin ou mezuzot, enan nirtavot, ela ashurit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, af basfarim, lo itiru sheikatevu, Ela Yevanit. En ben sfarim litfilin ou mezuzot, ela she asfarim nirtavim bechol lashon, ou tfilin ou mezuzot, enan nirtavot ela ashurit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, av basfarim, lo itiru sheikatevu ela yevanit. Alors en traduisant cette fois, en ben sfarim litfilin ou mezuzot, il n'y a pas de différence entre Sfarim d'un côté et Tfilin et Mezuzot. Et là, si ce n'est chez Sfarim Nirtavim Bechol Lashon, que les Sfarim, ils sont écrits Bechol Lashon en toute langue, ou Tfilin ou Mezuzot, les Tfilin et les Mezuzot, Enan Nirtavot et la Ashurit ne sont écrites que Ashurit. En ben Sfarim litfilin ou mezuzot, et la Shasfarim Nirtavim bechol lashon, ou tfilin ou mezuzot, Enan Nirtavot et la Ashurit. Voilà l'enseignement de la Mishnah. Il n'y a pas de différence entre les Sfarim et les Tfilin et les Mezuzot. Il n'y a pas de différence. Sauf une. C'est que les Sfarim, on peut les écrire Bechol Lashon. Les Tfilin et Mezuzot, on peut les écrire que en Ashurit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Av basfarim lo itiru sheikatvu ela yevanit. Donc, l'enseignement de la Mishnah, il était qu'il n'y a pas de différence entre les Sfarim et les Tfilin et Mezuzot, si ce n'est que les Tfilin, on doit les écrire impérativement en Ashurit, tandis que tous les autres Sfarim, on peut les écrire, tandis que les autres Sfarim, on peut les écrire en toutes les autres langues. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit non. Cette Mishnah, elle a eu aussi une restriction. Cet enseignement de la Mishnah, il comporte une restriction. Av basfarim lo itiru. Donc, il y a eu un Mahamad. Où ils ont interdit l'écriture de la Torah en d'autres langues, si ce n'est en yévanite. Av basfarim lo itiru, ça veut dire comme s'ils si avaient interdit, et ensuite ils n'ont permis que, et là yévanite, ils n'ont permis que la traduction en grec. Même à propos de Sfarim, ils n'ont permis la traduction que vers le grec. La Gemara va expliquer un peu la marloquette qu'il y a entre Tanakama et Rabban Gamliel. Donc je reprends. En ben Sfarim, litfilin ou mezuzot, et là chez Asfarim nirtavim bechol lashon. Ou tfilin ou mezuzot, et là nirtavot, et là ashurit. Donc quand on dit en ben, on dit bien qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas entre. Il n'y a pas entre Sfarim et Tfilin et Mezuzot quelque chose. Il n'y a rien entre ces deux choses-là. Sfarim, Tfilin et Mezuzot, c'est similaire. Puisqu'on te dit en ben et là. En quoi c'est similaire ? En quoi Sfarim, Tfilin et Mezuzot, c'est similaire, à tel point qu'on dise dans la Mishnah, Ein ben Sfarim, li Tfilin ou Mezuzot, et là, chez Asfarim, nirtavim bechol lashon. Alors la Gemara, dans le Bavli, elle dit, ben, les deux, ils sont metamé et tayadaim. Metame et Yadaïm, c'est ce qui. La takana que les Chachamim ils ont fait sur le Sefer, que le Sefer, il est Metame et Yadaïm, et cette takana là, elle est valable pas seulement sur un Sefer complet, mais même sur Tfilin, Mezuzot, et même sur moi. C'est dire que entre Sfarim et Tfilin et Mezuzot, il n'y a rien qui les distingue, si ce n'est cette différence précise-là de Sfarim, Nirtavim, Bechol Lashon, Tfilin et Mezuzot, le Nirtavot et la Ashurit. Mais en fait, ce qu'il y a de tellement similaire entre Sfarim et Tfilin et Mezuzot, c'est que ben, les deux, c'est les paroles de la Torah. C'est faire. Alors, Sfarim, quand on dit Sfarim, a priori, de quoi on parle? On peut parler des 5 Sfarim de la Torah, Chamisha, Chumshe Torah, ou on peut parler des 24 Sfarim. Mais ça ne change pas que Sfarim, ça soit les Chamisha, Chumshe Torah, ou ça soit les Kavdalot qui devaient à Kodesh, ça ne change pas ici. Les deux, donc Etfilin et Mezuzot et Sfarim, ce sont des paroles de la Torah à laquelle on accorde une importance, c'est-à-dire que on peut pas écrire une mezouza ou des tefilines avec une autre minutie avec laquelle on écrit la Torah. Toutes les halachot pour écrire la Torah, elles sont présentes aussi dans tefilines et mezouzot. Mais il y a quelque chose qui les distingue. C'est que Sfarim nirtavim bechol lachon et tfilin ou mezuzot seulement en lachon ashuri. Alors, a priori, Tfilin et Mezuzot, ce sont des paroles de la Torah, mais dont on ne se sert pas pour clamer les paroles de la Torah. Sfarim, les paroles de la Torah qui sont dans les Sfarim, on utilise les Sfarim pour clamer la parole de la Torah. Tandis que la parole de la Torah qui est dans Tfilin et Mezuzot, on ne la clame pas. C'est des livres, des Sfarim, des récits, des Megillot Sefer, dont on fait un usage qui n'est pas la Kriya. On se sert de cette parole plus comme d'un signe, comme d'un objet, l'objet de la Mezuzah ou l'objet des Tfilin. Et on ne se sert pas directement de la parole qui est inscrite dans les tefilines et les mezuzot pour accomplir la mitzvah. On a besoin d'écrire ces paroles-là pour se préparer à la mitzvah, mais la mitzvah, ce n'est pas un contact direct avec ces paroles, mais c'est un contact avec un objet. Et cet objet, il renferme ces paroles, et ces paroles-là, ils fonctionnent ensuite comme signe, hot. Soit hôte sur la mezouza, soit hôte sur le bras. Et peut-être c'est cette distinction qui est à l'origine de cette différence qu'il y a entre Sfarim, Tfilin et Mezuzot. Les Sfarim qui sont faits pour être clamés, un Sefer, c'est fait pour être clamé. Matsa Sfarim, Kore Bahem. Si quelqu'un y trouve un livre, eh ben il lit dedans. Et pour clamer les paroles de la Torah, cette chose-là, il n'est pas nécessaire de le dire dans une langue particulière. Ça peut s'écrire dans toutes les langues. Bechol lashon. Sfarim nirtavim bechol lashon. Alors, ça existe aujourd'hui. La Bible dans toutes les langues. La Bible, elle est traduite dans toutes les langues. Donc, Sfarim nirtavim bechol lashon, à la limite, on serait même tenté de croire que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Puisque, à l'évidence, c'est un livre énormément traduit et qui sait se dire dans la langue de tous les peuples qui habitent sur Terre. Donc, Sfarim nirtavim bechol lashon, en même temps, c'est une halakha, mais en même temps, ça peut être aussi une description. Sfarim nirtavim bechol lashon. Mais la traduction dont on parle ici, c'est quelque chose de plus important que juste ce phénomène-là, que la Bible est traduite dans beaucoup de langues. Quand on dit que Sfarim nirtavim bechol lashon, il ne s'agit pas moins de passer la Torah dans une autre langue, par exemple. Ça existe en araméen. La Torah, elle existe en araméen. Et bien, au lieu de parler la Torah en hébreu, comme on la parle maintenant, on parle que la Torah en araméen ou que la Torah en français. La lecture publique du texte de la Torah, elle se fait à partir des rouleaux en parchemin où on a écrit la Torah en français. Et la Gemara, elle dit, attention, « En ben sfarim ni tfilin ou mezuzot » Il n'y a pas de différence entre sfarim, tfilin et mezuzot. Les sfarim qu'on aura écrits, « Bechol lashon », ils seront comme, ils auront la même gdusha que les autres sfarim et que les tfilin et les mezuzot. Ils seront aussi « metame et tayadaim », ça s'appellera des « kitvei akodesh » si on écrit la Torah en toute langue. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est le Ashurite. Quel est son rôle ici? Si on dit que Sfarim nirtavim bechol lashon, c'est-à-dire que la Torah, elle se dit dans une langue, c'est Lashon HaKodesh. Mais Lashon HaKodesh, ce n'est pas une langue spécifique. Mais ça, c'est la langue de la Torah, c'est-à-dire la langue qui est la langue de la Torah. La spécificité de la Lashon HaKodesh, c'est l'enseignement de la Torah, c'est la Torah, c'est le Sefer Torah. Mais ce n'est pas une langue spécifique dans laquelle on dit le Sefer Torah. Donc, Sfarim nirtavim bechol lashon, tandis que Tfilin ou mezuzot ena nirtavot ela ashurit. En ben sfarim li tfilin mezuzot ela she sfarim nirtavim bechol lashon ou tfilin mezuzot ela nirtavot ela ashurit. De la Mishnah, tu ne peux pas déduire. Peut-être, mais peut-être c'est juste un ktav. Puisqu'on te dit ena nirtavot ela ashurit et avant tu disais ena nirtavim bechol lashon. C'est ouvert. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Mais des fois c'est l'un. Des fois c'est l'autre, et des fois c'est les deux. Ici, vraisemblablement, il faut les deux. Ektav et Lashon Ashurit. On attaque la Gemara. Alors on attaque la Gemara. Ktiv. Vayi kol haaretz shafa achat udvarim ahadim. Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Chad amar shayu medabrim b'shivim lashon. Vechorana amar shayu medabrim b'lashon yichido shel olam b'lashon hakodesh. Ktiv vayi kol haaretz shafa achat udvarim ahadim. Et ce, elle fut toute la terre shafa achat udvarim ahadim. Une shafa, on dit une langue, peut-être une lèvre. Dans la Torah, Safa et Lashon, c'est deux mots pour dire la langue. Safa ahat udvarim ahadim, et des propos uniques. Rabbi l'Arzar, Verabbi Yohanan, Chadamar, Shayum et Dabrim et Shivim Lachon. Et une machloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yohanan. Un, il dit, la tour de Babel, Shayum et Dabrim et Shivim Lachon. Il parlait en 70 langues. Mais Chorana Amar, Shayum et Dabrim et Lachon, Yechido Shel Olam. Et l'autre, il disait qu'il parlait dans la langue de l'unique du monde, Belachon HaKodesh. Pardon ?
Avant l'intervention d'Hachem, tout ça ?
Ouais. Mais on peut parler Dvarim, ici, ce dont on parle, c'est Dvarim Achadim. Un propos unique. On peut parler un propos unique en 70 langues. Ça ne change pas. Voilà le problème. Ce que j'ai à dire juste ici, c'est que on voit déjà que Lachon HaKodesh et Shivim Lachon, c'est on les voit être mis en parallèle. Shivim Lachon, c'est tout ce qui n'est pas Lachon HaKodesh. Lachon HaKodesh, c'est le reste. Ça veut dire celle qu'on aura déterminé pour être Lachon HaKodesh, parmi les Shivim Lachon. Shivim Lachon, c'est la totalité des langues dans le système de la Torah. Lachon HaKodesh, c'est celle qu'on choisit pour être celle qui est la langue de la Torah. Il faut au moins le Sanhédrin. Yechido Shel Olam, j'entends que c'est la langue de Hakadosh Baruch Hu. Mais la langue de Hakadosh Baruch Hu, c'est l'enseignement de la Torah.
L'enseignement de Sinaï.
Ouais, l'enseignement de la Torah.
Mais c'est pas le Sanhédrin.
Non, mais par rapport, pour déterminer. Dans quelle langue on va dire le Lachon HaKodesh? Quand on dit En ben Sfarim nitfil ou mezuzot et Lachon Sfarim nirtavim bechol Lachon, on dit que les Sfarim on peut les écrire dans toute langue. Pour ça, il faut la décision au moins du Sanhédrin qui donne une version autorisée du Sefer Bechol Lachon. Maintenant, ce Sefer, il peut servir après, en tant que tel, de référent.
Thank you.
On écrira, n'est-ce pas? Qui nous dira ce que Hachem a parlé au Sinaï? Ça veut dire que ce sera un Sanhédrin qui nous dira. Mais on le sait, sinon. Je suis d'accord. Mais ce qui se parlait à ce moment-là, c'est la Shana Kodesh sans Sanhédrin.
Alors, comment vous comprenez la Shana Kodesh quand on dit la Shana Yechido Shalolam be la Shana Kodesh? Mais elle peut changer cette langue. C'est une langue spécifique, c'est une des 70.
Non. Enfin, a priori non. Mais ça, c'est déjà une décision postérieure. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est une des 70.
Donc moi, ce que je voudrais mettre sur, en place, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est que la Shana Kodesh, c'est plus un mode dans la langue qu'une langue en particulier. La Shana Kodesh, c'est la langue du Kodesh, la langue de la sainteté, la langue de la Torah. La langue avec, dans laquelle tu vas dire la Torah, c'est elle qui va s'appeler la Shana Kodesh. Et évidemment, pour qu'elle soit Kodesh, il va falloir l'élaguer, la langue.
De quoi?
Eh bien, par exemple, de tout ce qui n'est pas Kadosh. Rambam dit que la Shana Kodesh, c'est parce qu'il n'y a pas de vulgarité dans cette langue. Alors déjà, il faudra... Tane bar kapara. Yaft Elohim le yefet veishkon be'ol shem. Sheyu medabrim bilshono shel yefet be'aolo shel shem. Ben yefet gomer umagog umadai veyavan vetuval umesher vetiras. Gomer germamia. Magog getaya. Madai kishmua. Veyavan eisos. Tuval vitania. Mesher misaya. Tiras rabbi Simon amar paras. Rabbanan Amre Tarka, Benegomer Ashkenaz, Verifat, Vetogarma, Asia, Veadayat, Vegermanica, Beneyavan, Elisha, Vetarchish, Kitim, Vedodanim, Alsterses, Avia, Vedardenia, Eta Rodi, Rod, Eta Tsamari, Hamatz, Eta Hamati, Hamat, Adlasha, Rabbi Lazar, Amarat, Clara. On reprend. Tane Bar Kapara. Yaft Elohim le Yefet veishkon be'aol shem sheyu medaberin bilshono shel Yefet be'aolo shel shem. Bar Kapara a enseigné. Il y a marqué dans la Torah Yaft Elohim le Yefet veishkon be'aol shem. Yaft, c'est un mot araméen. Yaft, ça veut dire qu'il élargisse. Yaft Elohim le Yefet, que Hachem élargisse Yefet. Veishkon be'aole Shem, et qu'il réside dans les tentes de Shem. Comment? Comment Hachem il va élargir Yefet? En le faisant résider dans les tentes de Shem. Sheyiyu medabrim bilshono shel Yefet, qu'on parle la langue de Yefet, be'aolo shel Shem, dans la tente, dans le Betamidrash de Shem. Et de là, il apprend que Sfarim nirtavim bechol lachon. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais pour la Gemara, Cham, ils n'ont pas de lachon. Et donc, ce qui reste, c'est Shem et Yefet. Et Shem et Yefet, ils résident ensemble dans la même tente. Et au lieu de lire Yaft Elohim le Yefet que à propos de Yevani, Bar Kappara, il le lit à propos de toutes les nations. Bechol lachon. Donc là, il y a beaucoup de noms de Malachim qu'on va devoir lire juste pour le plaisir de la lecture. Bnei Yefet. Alors, dans la Torah, il y a marqué Bnei Yefet, Gomer ou Magog ou Madai ve Yavan ve Tuval ou Mesher ve Tiras. Ça, c'est les enfants d'Yefet. Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tuval, Mesher, Tiras. Et maintenant, chacun, on leur donne une traduction. Gomer, Germamia, Magog, Gitaya, Madai, Kishmoa, comme on l'entend, Yavan, Eisos, Tuval, Vitania, Mesher, Misaya, Tiras, Machloket, Rabbi Simon Amar, Paras, Verabanan Amre, Tarka. Ça, c'était les enfants de Yefet. Maintenant, les enfants de Gomer. Il y a marqué dans la Torah, Bene Gomer, Ashkenaz, Verifat, Vetogarma. Et la Gemara elle traduit, Asia, Vehadiet, Vegermanica. Bene Yavan, Elisha, Vetarchish, Kitim, Vedodanim. La Torah elle dit, voilà les enfants de Yavan, c'était Elisha, Tarchish, Kitim, Vedodanim. Alors voilà les noms, Alsterses, Avia, Dardania, Vedardania. Ensuite, il y a marqué Eta Arodi, Rod, Eta Tsamari, Hamatz, Eta Hamati, Hamat, Adlacha, Rabbi Eliezer Amar, Adklara. Rabbi Yudan Bar Shalom, Amar, Mikan, Latargoum. Donc, même qu'on ne comprend pas tous les signifiants, mais ce qu'on voit ici, c'est que Bar Kappara, à la différence de Rabbi Yochanan dans le Talmud Bavli, Yaft Elohim le Yefet, il le lit le plus large possible. Hachem, il va élargir les tentes de Yefet, et Bar Kappara, il va élargir les langues de Yefet. Il va donner toute la palette de langues que ça peut être, Sfarim Nirtavim Bechol Lachon. Et d'où il sait que Sfarim Nirtavim Bechol Lachon? Justement, de Yaft Elohim le Yefet Veishkon Be'ole Shem. Même Yefet, il habite chez Shem. Comment? Par sa langue. Amar Rabbi Yonatan de Bet Gouvrin Arba Leshonot Naim Sheishtamesh Ba'em Ha'olam Ve'eluen La'az Lazemer Romi Lakrav Sorsi les Ilaya, Ivri les Dibour, Vieshomrim, Af Ashuri l'Aktav. Amar Rabbi Yonatan, Devet Gouvrin, Arba les Shonot, Naïm Sheishtamesh Bahem Haolam. Quatre langues, il convient, il est beau, il est. Il s'y est, au monde d'utiliser quatre langues. Vélouen, et les voici. L'Az, les émers. Le grec, pour le chant. Romi, la crave. Le latin, le romain, pour la guerre, pour la dispute. Sauf aussi l'araméen, les ilaya, pour gémir, pour faire des quinotes. Ivri, la dibour, et ivri, pour parler. Encore une seconde, j'ai bien fini. Bien chomri, afachouri, l'actave. Et il y en a qui disent, à part ces quatre langues, donc, la langue pour le chant, la langue pour la dispute, la langue pour la plainte, et la langue pour parler. Et il y en a encore une autre. Bien chomri, אף אשור היא לכתב. נאה שישתמש בהם העולם, peut-être c'est, יש אומרים, ça se rapporte là-dessus. אף אשור היא לכתב. אשור היא, יש לו כתב ואין לו לשון. עברי, יש לו לשון ואין לו כתב. Ashuri, ce qu'on appelle Ashuri, c'est une écriture qui n'a pas de langue. Ivri, c'est une langue qui n'a pas d'écriture. Voilà le beau mariage. Bacharou lahem, ktav Ashuri, velashon Ivri. Velama nikra shemo Ashuri, שהוא מאושר בכתבו. Il y a quatre langues qui conviennent bien à tout ce qu'on fait avec une langue. Et la Gemara énumère les quatre possibilités. Bon, il y en a d'autres, mais disons les quatre principales. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la langue? Alors avec la langue, on peut faire du zémer, on peut chanter des mélodies, zémer, zimra. On peut faire la guerre, on peut se disputer. Peut-être même c'est des joutes verbales. On peut se plaindre, gémir, en araméen. Et on peut aussi parler. Avec une langue, on peut aussi parler. Alors, il y a quatre fonctions pour une langue. Et l'une d'elles, c'est aussi parler. Mais pas que, hein. On peut aussi zémer, krav, ilaya, et aussi dibour. Pour dibour, ce qui s'y est, c'est ivri. Et qu'est-ce que c'est ivri? C'est une langue qui n'a pas d'écriture. C'est qu'une parole. Elle n'a pas d'écriture, elle n'a pas d'alphabet. Ashuri, c'est l'inverse. Ashuri, c'est une écriture, mais qui n'a pas de langue. Ça veut dire que c'est une écriture qui n'a pas d'histoire. Qui peut l'associer à une langue particulière. Ashuri, c'est une écriture dont on ne connaît pas de langue.
C'est du morse, quoi.
Non, c'est ce qu'on a sous les yeux, voilà, Ashuri. Pardon ? Ben, on ne saurait pas dire cet alphabet, ah tiens, cet alphabet, ça me rappelle quelque chose. Ça ne rappelle rien. Il est neutre. Il ne rappelle rien parce qu'il n'y a aucune langue qui se véhicule dans cet alphabet. Tu ouvres n'importe quel texte, tu dis, ah, ça ressemble à du russe, ça ressemble à du latin, ça ressemble à du chinois, à du japonais. Et Ashuri, ça ressemble à rien. À Ashuri. C'est ce qu'on essaye. Bacharou lahem ktav ashuri velashon ivri. Finalement, les béné d'Israël, ils ont pris ktav ashuri velashon ivri. Donc en fait, ivri, c'est la langue. Ici, dont on se sert, ce mot-là, ici, il désigne la langue de la Torah, la langue dans laquelle on dit la Torah. Et la langue dans laquelle on dit la Torah, en fait, elle n'a pas d'écriture. Et je dirais même plus, elle n'a pas de lachon. Que si on dit Sfarim nirtavim bechol lachon, c'est bien que la Torah, en fait, elle n'a pas un lachon particulier. La Torah, on peut la dire dans toutes les langues. La Torah, elle se dit dans toutes les langues.
Qu'est-ce que vous appelez une lachon? Le béni Israël. Israël.
Lama nikra shemo ashuri sheu meushar biktavo. Amar Rabbi Levi al shem sheala beyadam meashur. Alors Rabbi Levi, il rajoute quelque chose. Donc pourquoi on l'a appelé ashuri? Parce que meushar biktavo arba leshonot naish ishtamesh baem haolam yeshomri mafashurit laktav, que ashurit c'est la langue qu'il sied pour écrire. Et Rabbi Lévi, et la Gemara, elle dit, pourquoi on l'appelle Ashuri? Parce que Meushar Biktavo, c'est une écriture heureuse. Elle correspond bien, elle rend bien le service de l'écriture. Elle rend bien l'écriture. Ça, c'est Meushar Biktavo. Et Rabbi Lévi, il rajoute encore quelque chose, il dit non. She'ala imaem Meashur. She'ala beyadam me'ashur. Qu'en fait, c'est une écriture qui a fait son apparition à un moment donné de l'histoire. Et pourquoi on l'appelle Ashurit? Parce que justement, ils l'ont monté de Ashur, de la zone où. D'un endroit qui avait encore le nom d'Ashur.
Tane Rabbi Yossi. Tane. Rabbi Yossi Omer. Raoui Aya Ezra Shetinaten Torah Aliado, Ela Shekedamo Dor Moshe. Afalpi Shelonitna Torah Aliadav, Afunitan Ktav Velashon Aliado. Uktav Anishtevan Katuv Aramit Umeturgam Aramit. Veloka Alin Katava Lemikre. Melamed Shebo Bayom Nitan. Rav Nachman Amar Beroetz Nitna Torah Ve'atia Ki Rabbi Yossi. Alors on reprend. Tane Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer. Alors là c'était l'introduction. En fait le sujet il commence ici. Rabbi Yossi, il dit Raoui Aya Ezra Shetinaten Torah Aliado. Ezra était digne que soit donnée la Torah par sa main, par son intermédiaire. Et là, Shekedamo dort Moshe, mais l'avait devancé la génération de Moshe. Mais comme il était Raoui, comme il était digne à ce que la Torah soit donnée par son intermédiaire, Afalpi Shelonitna Torah Aliado, Afalpi Shelonitna HaTorah Aliadav, bien que la Torah n'a pas été donnée par ses mains, de ses mains, Afhu Nitan Ktav Velashon Aliado. Lui aussi, il a donné Ktav Velashon. Alors l'Agmara ici, elle explicite pas tellement, mais dans le Bavli, l'Agmara elle explicite ça, que à l'époque de Ezra il avait changé la Torah et son écriture et sa langue. Donc la Torah au début elle était en une certaine écriture qu'on appelle Ktav Ivri, le paléo-hébreu, Ktav Ivri Velashana Kodesh, et Ezra il a changé la langue. Elle est passée de la Shana Kodesh à Arami. La langue de la Torah, c'est devenu Arami. Et l'écriture, elle est passée de Ivri à Ashuri. Et Rabbi Yossi dit, Ezra. Raoui aya Ezra chez Tinaten Torah Aliado. Mais voilà ce qu'il a fait comme changement. Et ce changement-là, on attribue qu'il est comme un matan Torah. C'est pas un matan Torah, c'est comme. Raoui, Haya Ezra. Ezra, il était digne, il aurait pu être celui qui descend la Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le lachon de la Torah et le ktav de la Torah. Donc voilà, on a un exemple. En ben sfarim nitfil ou mezuzot, et la chasfarim nirtavim bechol lachon. Voilà, Ezra. Ezra, il a changé le lachon de la Torah. Le lachon de la Torah, c'était Ivri. Il est passé à Arami. Pourquoi? Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi il a changé? C'est possible que, on va dire vraiment Alpi Apshat, hein, que les Bnei Israël, quand ils sont montés de Babel, eux ils parlaient l'araméen. Et Ezra, il voulait les percuter par les paroles de la Torah. Les paroles de la Torah, pour eux, c'était devenu quelque chose qui était plus accessible, en tout cas pas accessible directement. Donc, il a changé la Torah du Lashon HaKodesh en araméen. Ensuite, ça a tellement bien marché, cette chose-là, que c'est resté. Que la Torah, maintenant, depuis l'époque de Ezra, n'a Guaham, que quand on lit la Torah, on la traduit directement en araméen. Ça veut dire que depuis l'époque de Ezra, il y a deux versions officielles de la Torah. Il y a la Torah en Lashon HaKodesh et la Torah en araméen. Et depuis Ezra, le minhag, il est de, quand on lit la Torah, de donner simultanément le Targum en araméen. Ah, on y arrive. La Gemara, elle va parler de ça maintenant. Rav Nachman Omer Beroetz Nidna Torah. Ah, tiens, qu'est Rabbi Yossi. Donc Rav Nachman lui dit Beroetz Nidna Torah. Qu'est-ce que c'est Beroetz? Ktav Ivri. Je le comprends d'ici. Atia et Rabbi Yossi. Ça va comme Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi pense que Ezra, c'est lui qui a été celui qui a fait la transformation de Ktav Ivri à Ktav Ashuri et de Lashon HaKodesh à Lashon Arami. Maintenant, on avait vu un petit peu plus haut dans la Gemara que finalement, ils avaient marié la langue qui n'a pas d'écriture et l'écriture qui n'avait pas de langue. Donc, on n'a pas retenu la Takana de Ezra jusqu'au bout, mais on l'a maintenue en parallèle. Ça veut dire qu'on a gardé le chinouï de Ezra par rapport à la calligraphie, que maintenant, l'écriture de la Torah, on l'écrit en Ashuri et plus en ivri, comme c'était auparavant. Mais on a gardé la Lashon HaKodesh au moins comme une version autant que celle de Ezra à côté en araméen. Rabbi Omer, Ashurit nitna à Torah. Ukshechatou nefach lehem le roetz. Ukshechachou bime Ezra nefach lehem Ashurit. Nefach lehem Ashurit. Rabbi, il a une autre version que Rabbi aussi. Donc, telle que la Gemara, elle l'a exposée. Comme commentaire de la Mishnah de En ben svarim nitfilu muzot et lachas svarim nirtavim bechol lachon. On rapporte ce que Israël a fait. Et Rabbi, maintenant, il donne une autre version de ce qui s'est passé à l'époque de Ezra. Mais ça n'enlève rien de la possibilité que c'est ait eu lieu. Étant donné que tout le monde sera d'accord que svarim nirtavim bechol lachon. Et que cette chose-là aurait pu être faite par Ezra si elle ne l'a pas été faite. Donc, d'après Rabbi aussi, effectivement, Ezra a changé le Lachon de la Torah et son Ktav. Et ça, c'est permis de la Mishnah qui dit En ben Sfarim nitfilu muzuzot, et Lacha Sfarim nirtavim bechol Lachon. Les Sfarim peuvent s'écrire dans toute langue. Donc, ce que Ezra a fait. C'était en toute, on va dire, en toute légitimité. La Gemara, elle a cité Ezra comme illustration de l'enseignement de la Mishnah. Maintenant, sur Ezra, sur cette illustration, il y a en fait divergence. Est-ce que Ezra, ça s'est vraiment passé comme ça ou pas? Mais à la limite, pour nous, ça n'a pas tellement de nafkamina, ça n'a pas tellement de conséquences pratiques, étant donné que c'est eu lieu ou pas, dans les deux cas, ça aurait pu avoir lieu. Et c'est ça qu'on veut apprendre, c'est ça que la Gemara dans l'Yerushalmi, elle introduit comme commentaire dans la Mishnah, c'est que En ben sarim nitinu mezuat et lachas sarim nirtavim bechol lachon. Effectivement, ça a eu lieu. Voilà, Ezra. Donc, Rabbi Omer, Ashurit nitna à Torah, ukshechatou nefach lahem le roetz, ukshezachou bime Ezra nefach lahem Ashurit. Donc, d'après Rabbi, en fait, la Torah, elle a été donnée au départ en Ashurit. Mais quand ils ont fauté, elle s'est transformée en Ivri, en Roetz. Et quand ils ont mérité, à l'époque de Ezra, Nefarlem Ashurit, de nouveau, elle s'est transformée en Ashurit. Et là-dessus, il a aussi un pasouk. Gam ayom agid mishne ashiv lecha. Et Vekatavlo et Mishneh à Torah Azot, al Sefer. Il y a marqué dans la Torah à propos du roi que le roi il doit écrire Mishneh à Torah Azot. Le roi il doit écrire Mishneh à Torah Azot. Qu'est-ce que ça veut dire Mishneh à Torah Azot? Le pshat, c'est la répétition de cet enseignement-là. Mishneh à Torah Azot. Mais la Gemara, elle est d'oréchette. Ktav, Sheou, Asoui, Leishtanot. Ve katavlo et Mishneh à Torah Azot. Mishneh, ça veut dire aussi ce qui se transforme. Il écrira à cette écriture qui se transforme. C'est ça qu'on dit au roi. D'écrire l'écriture qui se transforme. Ktav, Sheou, Asoui, Leishtanot. De l'Arabie, il apprend qu'il est possible que le texte de la Torah, le ktav de la Torah, l'écriture de la Torah, il vienne à changer. Tané, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Mishum Rabbi Elazar ben Parta, Sheamar Mishum Rabbi Elazar Amodai, Ktav Ashuri Nitna Torah, Umatarma vave amudim, sheyehu vavim shel Torah, dovim la amudim. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, Mishum Rabbi Elazar ben Parta, Sheamar Mishum Rabbi Elazar Modai, non. Ktav Ashuri nitna Torah, elle n'a pas changé. La Torah, elle a été donnée en Ashuri, elle est restée en Ashuri, aujourd'hui elle est en Ashuri, ça n'a jamais changé. Ça aurait pu. En ben sfarim nitfilim mezot et la chasse farim nirtavim bechol lachon, ça aurait pu. Matama vave amudim, sheyu vavim shel Torah domim la amudim. Les, il y a marqué dans la Torah les crochets qu'on met sur les piliers, vave amudim, les crochets des piliers. Sheyu vavim shel Torah, que les vaves de la Torah domim la amudim ressemblent à des piliers. Bon. Comme preuve, c'est pas super parce que et dans l'écriture ivri et dans l'écriture ashuri, le vav c'est un crochet. Donc à la limite, ça aurait pu marcher même si beivri nitna Torah. Même si la Torah elle avait été donnée dans le ktav ivri, vavé à amudim ça aurait pu être maintenu. Mais si on lit qu'en fait Rabbi Elazar ben Parta, ce qui veut dire, c'est pas que ça n'aurait pas pu avoir lieu, mais que ça n'a pas eu lieu pour une raison. Et la raison, c'est Vavé à Amoudim. Peut-être qu'il voit là-dedans quelque chose comme il faut que les lettres de la Torah, elles restent des piliers, que ce ne soit pas une langue ou une écriture qui se dissolve dans quelque chose d'autre. Vave amudim, sheyu vavim shel Torah, domim la amudim. Amar Rabbi Levi, man de amar le roetz nitna a Torah. Celui qui pense que la Torah elle a été donnée en roetz, aïn maase nissim. La lettre Aïn, Maase Nissim. Mande Amar Ashuri Nitna Torah, sa mère, Maase Nissim. Celui qui pense que la Torah elle a été donnée en Ashuri, le sa mère, c'est un acte miraculeux. De quoi il s'agit? Des Louchot. L'écriture de la Torah sur le parchemin, c'est de l'encre sur un support. C'est une écriture pleine. L'écriture des louchot, c'est les louchot, c'est donc des tables de pierre. Et comment on écrit dans les tables de pierre? Eh bien, Hachem, il a gravé de part en part les lettres de la Torah. Donc c'est une écriture en creux. C'est plus une écriture pleine, c'est une écriture creuse.
On fait un creux dans la pierre et c'est en faisant le creux dans la pierre qu'on voit les lettres se dessiner. Donc, pour le sameur, il y a un problème, c'est un rond. Comment le tracé du sameur, il va se maintenir? Une fois qu'on a fait le tracé du sameur, et où il est le rond? Ah, il tient encore par un S. Alors, dans les louchot, on dit, même vesamer sheba louchot, benes ayu amdim. Le même sophie du Ktav Ashuri et le sameur du Ktav Ashuri, c'est deux lettres qui ont un intérieur. Que une fois qu'on a fait le tracé de ces deux lettres, sameur qui est un rond, ou même sophie qui est un carré, alors ben, l'intérieur, il doit tomber. Et Rav Chisda, il nous dit, Rav Chisda, Amar Rav Chisda, même vesamer sheba louchot, benes ayu amdim. Rabbi Lévi de préciser, non, ça marche dans plusieurs alphabets. Faut pas croire, c'est pas une spécificité de l'alphabet Ashuri. Ça marchait même en ivri. D'ailleurs, d'après celui qui dit que la Torah elle a été donnée Bektav ivri et que c'est Ezra qui est venu la changer, il s'agit carrément des louchot. Que Ezra il aurait eu l'audace, d'après ce qui est marqué ici, de changer du Ktav des louchot, que le Ktav des louchot il était en Ktav ivri. Et d'ailleurs, il comportait aussi le Nes, bien sûr. Benes Ayuam Dim, lequel, mais plus le même lettre, le Haïn. Le Haïn, c'est comme un rond, comme un œil. Donc, ce que Rabbi Lévi dit, c'est que même si on utilise un autre alphabet, on pourra quand même maintenir les nissim qui ont eu lieu grâce à l'écriture de la Torah et des louchot. Rabbi Yirmiya, Meshem Rabbi Chia Barba et Rabbi Simon, Tariva Trehon, Amrin, Torah Tarishonim, Loaya, Lohe, Shelaem, Velo Mem, Shelaem, Satoum, Ha, Samer, Satoum. Bon, c'est des indications. Sur la graphie, d'après donc Rabbi Chia Bar Abba et Rabbi Simon, la Torah des premiers, la Torah des anciens, Lohaya, Lohe Shelaem, Velo Mem Shelaem Satoum, ni le He ni le Mem n'était fermé. Bonne question, le He il n'est pas fermé. Eh bien, chez nous il n'est pas fermé, mais peut-être chez Rabbi Simon il était fermé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils constatent. Chez nous, il est fermé, et chez eux, il n'était pas fermé. Ils constatent exactement la même chose que toi. Toi, tu constates que le hé de Rabbi Yirmiya, il est fermé. Et lui, il constate que dans la Torah des Rishonim, le hé, il n'était pas fermé. Tane Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Af basfarim lo itiru sheikadvu ela yevanit. Batku matzu shen a Torah yochola litargem kol tzorka ela yevanit. Donc, la Mishnah disait, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Af basfarim lo itiru sheikadvu ela yevanit. Quand dans la Mishnah on a dit, En ben sfarim nitfilin ou mezuzat ela shasfarim nirtavim bechol lachon, les sfarim, on peut les écrire bechol lachon. Rabbi Shimon ben Gamliel, il a précisé dans les sfarim, on n'a permis qu'en grec. La Gemara rajoute là-dessus Batku ou Matsu. Ils ont fait une enquête et ils ont déterminé She'en a Torah yochola litargem kol tzorka ela yevanit, que la Torah ne pourrait être traduite kol tzorka, tout ce qu'elle a besoin, ela yevanit, seulement en yevanit. Donc pour Rabban Gamliel, ça a fait l'objet d'un examen. Et c'est après cet examen qu'ils ont décidé que la Torah, on pourra la traduire qu'en yévanite. Donc c'est pour Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas tellement l'enseignement de la Mishnah qui remet en cause, mais plus son application, on va dire, halakha le maïsé. Il dit halakha le maïsé, finalement ça a eu lieu qu'en yévanite, cette chose-là. Pour tout le monde, ça a eu lieu en aramite, grâce à Ezra. Et Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, dans les autres langues, ils ont vérifié, ils ne sont pas arrivés à le faire passer tout ce qu'il y a besoin pour traduire la Torah que en yévanite. Bourgani Echad Bidalahem Aramit Mitoch Yévanite. Il y a un bourgeois qui a retrouvé, qui a inventé l'araméen à partir du grec. Ça veut dire qu'ils avaient traduit la Torah en yévanite. Et quelqu'un qui savait lire le yévanite, il est arrivé à retomber sur le texte de la Torah en grec. Du yévanite, il est arrivé à retomber sur la Torah en grec. Pas en lachon hakodesh, mais en grec. Ça veut dire qu'il est arrivé à passer d'une traduction à l'autre. C'était que, effectivement, en yévanite, on était arrivé à rendre kol tzorka la traduction de la Torah. Puisqu'on était arrivé à passer du yévanite à une autre traduction qui est aramite. Rabbi Yirmiya Bechem Rabbi Chiya Barba Tirgem Akilas Ager Torah Lifne Rabbi Elazar Ve Lifne Rabbi Yoshua Ve Kilsu Oto Ve Amrulo Yaf Yafitam Ibne Adam. Akilas le guerre a traduit la Torah devant Rabbi Eliezer et devant Rabbi Yoshua, ça veut dire devant, avec l'accord de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua, et ils l'ont louangé. Ve Amrulo Yaf Yafitam Ibne Adam. Tu es le plus beau des hommes. Exact. Alors ça, c'est aussi une manière de parler de la chaîne yévanite, que dans Yéfet, il y a Yaf Yafita. Il y a encore plus beau que beau, c'est le grec. Yéfet, c'est large, c'est beau. Et Yaf Yafita, c'est le grec. Il y a encore des dilim relatifs aux Sfarim, aux Tfilim, aux Mezuzot, mais bon, on peut s'arrêter là pour l'instant. Alors, je vous propose, si vous avez des questions, comme ça on peut reprendre au fur et à mesure avec les questions. C'est les enfants de Yaakov. Yaakov. C'est le fils de Yitzhak. Fils de Abraham. Voilà, jusqu'à Adam Harishon, qui est la créature de Hachem. Je veux pas. Après on parle. On en parle après si tu veux.
Si vous voulez considérer qu'il n'y a que Abraham qui juive parce qu'il n'a fait de la Brit Mila, qu'un fils d'Hachem soit Brit Mila ou non Brit Mila, il est quand même juif. Il est obligé de respecter les lois d'Hachem. Il est obligé de se respecter en fait. Lui qui l'a Hachem.
Elle est un peu troublante, cette Mishnah et cette Gemara, un peu. Pour garder les mesures. Mais ce qui est marqué ici, par rapport à Shurit, un peu plus loin, dans la même Maseret, dans Megillah, on appelle la Shona Kodesh aussi Shurit. Donc Shurit, ça fait fonction et de nom pour désigner une langue et de nom pour désigner une écriture. Oui, tout à fait. Non mais le mot, juste pour dire que ce mot-là, alors que trouver une phrase comme Ashuri yesh lo ktav ve'en lo lashon. Bacharu lahem ktav Ashuri. Ve'lama nikra shemo Ashuri she'u me'ushar bichtavo. Si je pense qu'il y a la on te donne l'interprétation plus ou moins complète du mot Ashuri. On dit que c'est quoi l'écriture heureuse? C'est quoi l'écriture Meushar Birtavo? C'est l'écriture qui a un ktav mais pas un lachon.
C'est-à-dire un écrit qui s'écrit à son écriture et qui n'a pas de mot.
Voilà. Que quand on voit cette écriture, ça ne nous rappelle rien. Non, ça t'évoque pas quelque chose qui... Non, c'est que des signes. C'est des signes conventionnels purs. C'est des signes qui ne sont pas alourdis d'un passé culturel. Ivri, il y a beaucoup de littérature en ivri. C'est vrai qu'il y a Kavdalot Sfarim en ivri, mais il y a encore l'Iliade et l'Odyssée, et c'est pas tout. Il y a plein de Sfarim qui sont écrits en ktav ivri. D'où le changement politique, qu'on peut aussi changer d'alphabet, et avec ce changement, influencer une certaine politique, ou alors avoir un certain comportement par rapport à d'autres personnes qui utilisent l'alphabet qu'on a quitté. On peut quitter un alphabet pour quitter aussi un mode de vie, une culture qui est trimballée par cet alphabet. C'est ça que je lis. On dit Yesh omrim af Ashuri l'octave, Ashuri yesh l'octave en lo lachon, Bacharu lahem ktav Ashuri, Lama nikra shemo Ashuri, Sheu meushar birtavo. Il ne fonctionne pas comme tel, ouais.
C'est un paradoxe, pourquoi on dit que
Léat, ce que tu dis, c'est très juste, sauf que il y a encore un petit problème, c'est que la mezouza, qu'est-ce qu'on écrit dans la mezouza? Le schéma, le kriyat schéma, ce qu'on clame par excellence, bechol lachon. Non, non, rien du tout. Ni d'écoute, ni de lecture, ni de rien du tout. C'est un objet qui comporte une parole. Eh bien, c'est parce que c'est un objet qui est le support d'une parole. Et cette parole, tu la places à l'entrée de ta maison. Comme on avait mis le sang sur les mezouzot en Mitzrayim, juste après, on te dit, et tu mettras les mezouzot sur ta al-mezouzot betecha ou bisharecha. Avec les mêmes mots, non, pas juste après, avec les mêmes mots. On te dit, il y aura le sang sur les mezouzot, et tu mettras la mezouza sur... Et la Gemara, elle apprend de l'un et de l'autre pour déterminer qu'est-ce qui s'appelle mezouza, etc. On apprend du sang qu'on a mis sur les mezouzot en Mitzrayim, c'est-à-dire du sang qui a servi comme hot, ve'aya adam azeh lachem le hot. On apprend des halachot pour mezouza. Mezouza aussi, ça fonctionne comme un hot. Comme un signe et pas comme une parole lue. Hot, c'est une écriture, une lettre, ouais. Exact. Ktav, c'est l'écriture. Hot, c'est un signe pour faire l'écriture. Il faut plusieurs otot pour faire un ktav. Mais on le connaît. On connaît l'alphabet. C'est d'ailleurs c'est l'alphabet qu'on a sous les yeux. Ça, c'est l'octave achouri.
Dès lors qu'on le définit comme une écriture qui n'a pas de langue, ça veut dire que c'est une langue en potentiel. Ce qui définit l'achouri, c'est le potentiel de langue qu'il y a dans l'écriture.
Non, c'est que quand il viendra... signifier une langue, eh ben, il ne sera pas alourdi de tout ce que n'importe quel alphabet transporte avec lui, charrie avec lui. Voilà. Pourquoi par un S? Non, ça c'est les louchot, c'est autre chose.
Non, mais en tout cas, c'est le tas qui change. Le tas qui passe de l'ivri à chouri.
Ouais.
Mais le lachon, il reste
lachon ivri. Lachon à Kodesh, ouais. Ezra, il l'a changé en lachon arami, mais finalement, les bénis Israël, ils ont gardé les deux. En tout cas, ils ont gardé lachon à Kodesh.
De la chaîne.
n'est pas dans la langue. Mais s'il est dans quelque chose, dans un écrit, c'est dans la Lashon Hashuri. S'il y a, dans Ktav Hashuri, s'il y a un Ktav qui sait épouser Lashon HaKodesh, c'est bien Ktav Hashuri, puisque le Ktav Hashuri, il n'est pas connoté. Donc, il peut servir à signifier, à être le, ce qui va renvoyer au Lashon HaKodesh. Et sans qu'il y ait d'interférence dans ce renvoi. D'où Hashuri, qu'il sait bien, il est. Ah, ça c'est la question. Non, mais quand on dit Beivri Nitna Torah, on ne parle pas de la langue, on parle du Ktav. Mais je suis d'accord qu'on peut s'embrouiller aussi. D'où? Non, mais quelle est la question alors? Tu entends qui te répond? Ou pas? Non, je dis à Jean-David. Là, pour moi, c'est la réponse. Il te donne la réponse. À la... Tu demandes si Hashuri, il est tellement bien, bah, alors il aurait dû être celui qui est choisi d'office. Pourquoi Moshe, il l'a écrit la Torah en ivri? Là-dessus, je te répondrai que Moshe, peut-être, et c'était ça son chidouche, qu'il a donné la Torah en, la, en Ktav Ivri. Que quand la Torah elle est descendue dans le monde, elle s'écrivait en Ivri et elle était très connotée. Eh bien, elle était un écrit parmi les autres écrits de cette époque. Quand Moshe il a donné la Torah en Ktav Ivri, eh bien, en Mitzrayim, il y avait une... Il y avait deux Ktavim qui circulaient en ivri. Ils
pouvaient ressembler à l'ivri des...
Mais à l'évidence, puisque c'était l'écriture de toute la région. Donc, comme Moshe, il a écrit la Torah, mais on peut dire ça, c'est une démarche voulue et déterminée dans la Torah.
Que, pour avoir une portée universelle.
Pour avoir une portée, on va dire, au moins la plus large possible dans la région et... La Torah, elle dit que quand on rentre en Eretz Israël, il faut déposer 12 pierres dans le Jourdain. Et sur ces 12 pierres, on écrit la Torah, Ba'er et Tev, en 70 langues. Donc, Moshe, qu'il ait utilisé le Ktav Ivri. C'était pour installer la Torah dans le monde. Et où il y a eu un deuxième Matan Torah, c'est que Ezra, il a retiré, comme si on pourrait dire, il a retiré la Torah de la circulation en Hashuri. Du coup, le livre de la Torah, il n'était plus en compétition avec tous les livres qu'il y avait à l'époque de Ezra. C'est quoi Matan Torah?
Si tu dis que Moshe il a donné en Ktav Ivri, et que le Ktav Ivri c'était le Ktav commun de tous les peuples de la région, ça avait une vocation universelle.
ça n'a rien donné, hein. Vocation universaliste, flop, hein. Ça avait vocation, ça veut dire que ça avait cette prétention de se dire et de s'écrire de manière à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Mais ça n'a pas agi plus que ça. Mais que Moshe, c'est ça qu'il a fait dans son travail. Et Ezra, l'inverse. Ezra, l'inverse, parce que il a changé la langue de la Torah. Avant de changer le Ktav, il a changé la langue. Il a fait passer la Torah de Lashon HaKodesh à Lashon Arami. Sûrement, étant donné que les livres qu'on a ramenés avec nous de Babel, Daniel et Ezra, ils sont écrits en araméen. Quand on dit Ashurit, que les Sfarim, ils sont écrits en Lashon HaKodesh, par exemple, le Tanar, Kidvei HaKodesh, ils sont écrits en Lashon HaKodesh. En fait, on se rend pas compte, mais Lashon HaKodesh, pour nous, c'est deux. C'est Ivri et Arami. C'est aussi araméen. Puisqu'il y a des Kidvei HaKodesh, Daniel, Ezra, qui sont écrits en araméen. Donc l'araméen et l'hébreu sont eux deux le Lashon HaKodesh. Des mots, ouais. Lachon, ivri, voilà.
Oui, l'ivri, c'est un. L'ivri, c'est un lachon sans ktav. Tout le monde sait bien qu'il y a un ktav.
Lequel?
Mais mon cher Abbé, il a donné un ktav ivri.
Ah, c'est ça. Mais. Oui, tout à fait, mais que. On ne considère pas que c'est le ktav du ivri. Le ktav qu'on appelle ivri, le ktav dit ivri. En fait, c'est le ktav phénicien, yévani, tous les ktavim de cette région. Ils s'appellent ivri. Ils s'appellent pas ivri. C'est celui-là. On le dit ivri que parce qu'il a été utilisé par les ivrim, par Moshe, à cette période. Donc il est dit ivri, mais en tant que tel, il n'a rien d'ivri.
Donc comme tel, il n'avait rien de spécifique. Il n'était pas séparé.
Aucune.
Mon cher ami a écrit donc la Torah avec un ktav sans kdusha.
Tout à fait.
La langue était Lashon HaKodesh, mais le ktav, c'était le ktav de n'importe qui.
Exact.
À ce moment-là, c'est tout à fait logique que Ezra fasse de ce ktav ivri un ktav ashur. Il n'y avait rien. Le ktav ivri, il n'avait rien de spécial. On ne le remplacerait pas par un
ktav ashur. Un ktav plus heureux.
Bien meilleur. Pardon.
Excusez-moi, mais pourquoi c'était nécessaire pour donner plus de kdusha au ktav?
Non, parce qu'il n'a pas mis plus de kdusha. Mais puisque ce n'était pas la langue que les gens comprenaient, ben c'était normal de passer. Le ivri, tout ce qu'il avait, c'est que l'on comprenait. Il n'a pas de kdusha, le ktav ivri, de Moshe Rabbeinu. Seulement qu'on l'a compris, d'après ce que j'en ai expliqué. Pourquoi il était compréhensible? Alors maintenant qu'on est dans un pays où ce ktav ivri, il n'est plus lisible, mais Israël ne savait plus lire de la Gemara dans sa lettre. Il ne pouvait plus lire le ktav ivri. Il leur a donné ça en ktav ashuri. Ah, il ne savait plus la Lashon HaKodesh non plus, il a donné en araméen. Lachon, Lachon Akodesh. Il y a le Lachon Ivri et le Lachon Arabi. Alors, c'est pas très loin. Si on dit que. Qu'est-ce que le Lachon Arami a de particulier pour qu'il puisse être un Lachon Akodesh? Pourquoi est-ce qu'il est un Lachon Akodesh? Le Maradi, le Rami peut être un Lachon adéquat, parce que c'est le Lachon que Adam Arishon parlait, et justement parce qu'il n'est pas spécifique à aucun peuple. Parce que l'araméen était l'anglais d'aujourd'hui, les différents araméens, l'araméen du Babli n'est pas l'araméen du Yoshani, mais bon, sauf tout ça, c'est l'araméen. Et Maral dit que c'est pour ça que Adam Arishon ne pouvait, oui, il ne pouvait même pas parler la Shona Kodesh, la Shona Kodesh de l'hébreu, quoi. Parce que, à ce moment-là, cet ivri, enfin, il s'était attaché à un peuple, dit Maral. Pardon ? Il a nommé les animaux parce que dans un certain langage. Peut-être après on pouvait passer de l'un à l'autre. Il l'a donné dans son en araméen. S'il parlait araméen, il a dû les nommer en araméen. Et comme le nom, c'est pas problématique, parce que le nom, ça reflète ce qu'est réellement l'objet. Dans n'importe quelle langue, ça va refléter. Non, ça c'est parce que nous on pense que l'hébreu, il y a toujours ce problème dans le linguistique, je veux dire de savoir est-ce que la langue reflète ou bien c'est une convention. Est-ce que ce shulchan là, est-ce que ça reflète les lettres qui nous servent à écrire shulchan et à prononcer shulchan, est-ce qu'elle reflète cet objet là, c'est une convention. On aurait pu l'appeler Aleph Bet Gimel Dalet aussi. Alors, on va dire, le Lachon HaKodesh, qu'est-ce que c'est un Lachon HaKodesh? C'est une langue qui reflète exactement la réalité. Vite, en termes de vibration, en termes de fréquence de l'objet. C'est ce qu'on est en train de dire.
J'ai l'impression que vous disiez que c'est ça ou le contraire, je ne sais pas.
Non, je dis que le propre du Lachon HaKodesh, c'est de refléter réellement ce que sont les choses. Donc toute chose qui deviendra Lachon HaKodesh, si on considère que l'araméen est Lachon HaKodesh, ça veut dire que l'araméen lui aussi reflète l'intériorité des choses. Et si Adam Arishon, comme dit le Maral, c'est pas le Maral qui l'a inventé, c'est un problème, parce que Adam Arishon parlait araméen, ben l'araméen il devait refléter les choses.
Ils ont tous 22. Tranquille. Non, mais les alphabets, ils ont le même nombre de lettres. Ivri et Ashuri, ils ne sont pas différenciés. Ils ont le même nombre de lettres, c'est juste la forme. La forme de la graphie qui est différente.
Alors, une question technique, Ezra, il a sorti sa graphie Ashuri. On connaît aujourd'hui.
Non, c'était Ashuri, c'était une graphie existante.
C'est pas sûr. Hein. La Gemara, elle dit Lokaalin Katava le Mikrebe, mais la Mèche est Bobayom Nitan. La Gemara, elle dit ici qu'elle a été donnée, ce Ktav, il a été donné le jour là, du festin de Belshazzar. La main qui est sortie et qui a écrit Mané, Mané, Takel ou Farsin. Ah, il faut lire la Bible. C'est en toutes les langues. C'est dans toutes les langues. Attends, une seconde. Ce que Rav Grandstein a dit sur Arami, ça fait écho à ce que tu as dit tout à l'heure sur Moshe qui écrit Belashon Ivri et Ezra qui réduit en Ashuri. Mais d'un autre côté, il le réouvre grâce au Arami. Puisque à ce moment-là, c'est le Arami qui est le Lachon universel.
Expliquer, mais...
oui, tu as raison, je t'avais dit qu'on le verrait, on l'a pas vu. C'est un coup classique des conférenciers, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Manspark. Les lettres ouvertes et les lettres fermées, c'est... Même, alors c'est Manspar, ça s'appelle. Même Nun Tzadik Pechaf. Ça, c'est, ça dépend le lait de qui? Des Rishonim, de Rabbi Yirmeya ou de nous? Il y en a pour qui le lait, il était fermé. Eh bien, on peut les faire Bekalvach Omer sur les lettres en ivri. Tu as déjà vu les lettres ivri?
Oui, mais
ce ne sont pas les mêmes, ce sont des différentés alors. Mais t'inquiète pas qu'elles tiendront debout. Mais pourquoi? Mais ça, on peut l'introduire, le sens qu'on donne aux lettres. Mais alors, pas celle-là, une autre. Mais tu penses que quand dans la Torah, il y a marqué un certain mot, et qu'on dit, ouais, c'est marqué comme ça, alors on est Doresh, une halakha. Et si c'était marqué en français, tu crois qu'on pourrait être Doresh et halakha? Non? Ou pas? Donc c'est un problème que la traduction elle doit porter. Et la même chose pour les drachot de graphie. Et bien tout ça c'est des fables dans le sens que c'est des choses qui sont très intéressantes une fois qu'on a l'alphabet. C'est-à-dire dans un alphabet donné, comment tu vas donner du sens à tout ça? Mais cet alphabet-là, c'est pas figé, il n'y a rien de kadosh dans aucun alphabet. Et on peut changer d'un alphabet à un autre. C'est ça que la Gemara te dit ici. Qu'il ne faut pas être figé sur le fait qu'il y a un sens, un et unique aux lettres qu'on utilise. Ça aurait pu être une autre. Le message de la Torah, il ne se fiche pas dans une lettre. Il ne va pas s'étouffer dans un signe. Et alors? Mais et alors? Mais elle va changer un peu la Torah, c'est pas grave. Mais on fera une autre dracha avec un autre nombre de lettres. Mais évidemment. Mais c'est une autre Torah. Et la Torah, elle te dit que c'est ça la Torah. Ne crois pas que la Torah, elle est figée quelque part dans une langue et dans un ktav. En ben sfarim ni tfilin ou mezulot, et la shah sfarim ni rtavim bechol lachon. La Torah, il faut être capable de la dire dans toutes les langues et dans tous les ktavs. Parce que la Torah, c'est au-delà d'une spécificité d'une langue et d'une écriture. Et c'est ça le hocher de Hachourit. Et du Lachon Hachouri et de Ktav Hachouri, j'ai l'impression.
Pour faire le lien, c'est ça le lien avec le sens de chaque
fois.
Ouais. Une fois. Le lien,
très bien.
Quel bonheur.
En tout cas, sur le Ktav, Hachourit, ça nous a donné la possibilité de nous rendre compte que le Ktav de la Torah, même si, on va dire, les Luchot, elles ont été données dans un certain Ktav, Ezra, ça ne va pas le déranger de changer le Ktav. La Gemara ici, elle dit « Man de Amar Beroetz Nitna Torah Ain Maase Nissim ». Ça veut dire la même expression dont on se sert pour décrire le Nez avec le Ktav Hachouri, on s'en sert pour décrire le Nez avec le Ktav Ivri. Ça veut dire que d'après cet avis-là, Ezra, il y avait l'écriture des Luchot, Etzba Elokimi, c'était en Ivri, ça l'a pas complexé, ça l'a pas figé. Il n'a pas pensé que la Torah, elle devait maintenant emprunter cet alphabet-là parce que il avait été touché par une certaine grâce. Non. Mais que le message de la Torah, on peut le désincarner d'un alphabet et d'une langue.
Ça, c'est pour le faire, mais il faut quand même avoir
Lachana Kodesh, c'est Bechol Lachon. Dans toutes les langues où tu diras la Torah, c'est-à-dire que tu auras appliqué à la langue la rigueur, l'éclalim du Lachon de la Torah, tu auras fait de cette langue Lachana Kodesh.
Même pour une kriya.
Même pour une kriya. Kriya de Torah, barabim, tu peux la faire Bechol Lachon. Ouais. Il faut que ça soit écrit. Avec tout, et que ensuite on lise la Torah en français et on édorait chaque mot comme en hébreu. Que un passou qui nous épate, eh bien il nous épaterait en français comme en hébreu. Il faut pouvoir hébraïser le français. Il faut pouvoir faire du français quelque chose qui nous parle, comme aujourd'hui l'hébreu il nous parle. Quand on lit la Torah, il nous interpelle.
Mais on l'a pas fait, je veux dire, ça n'existe pas.
Ben on essaye. C'est ce qu'on essaye de faire chaque fois. On essaye de traduire le Chumash et d'être percuté par la parole de la Torah dans la langue dans laquelle on vit. C'est un peu liturgique quand on lit la Torah, nous, à la Kriyat HaTorah. C'est plus zémer. On est un peu dans le la'az. La'az, les zémer. On va à la choule, on écoute la Kriyat HaTorah. C'est plus un chant.
On lit en grec.
Et des fois en latin. Et les familles m'y cravent. C'est la meuleuse. Ça sera la meuleuse d'aujourd'hui. Elou Nemarin Bechol Lachon, Parashat Sota, Vidui Maaser, Kriat Shema, Tfila, Birkat Amazon, Shuat Haedut, Shuat Apikadon. Elou Nemarin Belachon Akodesh, Mikra Bikurim, Khalitza, Birkat Kohanim, Birkat Kohen Gadol, Parashat Amelech, Parashat Egla Arufa, ou Parashat Mashuach Milchama Besha Shemedaber Ela. 7 et 8. Je ne l'ai pas tous dit. Si. Voilà. Mais c'est un autre sujet, ça, il faut.
Alors, en fait, on aurait beaucoup de monde à être sur le mont Sinaï à avoir essayé.
Je ne sais pas répondre rapidement à ça.
On a pris les termes de la loi.
Parce que pour moi, c'est le nœud. Le nœud de la Sugya, il est ici.
Si vous ne connaissez pas le sujet.
Comment ?
Ça n'est pas le sujet.
Le nœud de la Sugya, il est ici.
Le sujet de Machia.
Vous n'avez pas la parole, c'est pas le sujet.
Responsable de
vous n'avez pas la parole.
Très bien, vous êtes apparemment plus fort.
Oui, il faut crier plus fort.
Mais HM, on fera de votre plaisir pour rester plus longtemps.
Voilà.
comme pour le Mont Sinaï, tous les humains qui
sont là,
ils ne sont pas les mêmes. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons ce Torah. Hachem, descendez la montagne, allez ouvrir.
Moi aussi je souffre.
Aujourd'hui, je t'en prie. Aux humains qui sont en bas de la montagne, pour qu'ils puissent respecter. Donc on a tous les temps de l'avoir, on nous-mêmes. C'est une question de compréhension. Pour que vous appreniez que les machilards, ça va être nous maintenant, tout de suite, maintenant, je vais vous expliquer. Nous avons laissé le Torah que Hachem nous a offert. On est sur le mont Sinaï, Hachem nous dit descendre la montagne. Ils ont fait des mots d'or. Tout va ressembler à des mots d'or, tout ce qui n'est pas un des dix commandements. Tout ce qui doit ressembler au commandement à un mot d'or, quand on descend de la montagne, on va descendre tout.
Vas-y, comment il s'appelle Julien, vas-y. Allez, comment il s'appelle Khazak. Vas-y, Julien. Vas-y. Si l'écriture. A vu la machloquette Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ben Elazar ben Parta, il y a trois avis. D'après le premier avis, Rabbi Yossi, la Torah a été donnée au début en Ivri et Israël l'a fait passer en Ashuri. D'après Rabbi, la Torah a été donnée en Ashuri. Quand ils ont fauté, on leur a transformé en Ivri et elle aura été donnée de nouveau par Israël en Ashuri. Et d'après Rabbi Shimon ben Elazar, la Torah, elle a toujours été et elle sera toujours en Ashuri. Alors, déjà, ça c'est une différence entre Sfarim Nirtaim Bechol Lashon, Tfilim Uzotena Nirtaim Ashuri avec la Mishnah de Sota. C'est que quand on dit Ashurit, évidemment, on dit Ashurit qu'aujourd'hui qu'on se sert du Ktav Ashuri. Mais quand on utilise le Ktav Ivri, eh ben, les Tfilim, on va les écrire en quoi? En Ivri, évidemment. Ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'on a le ktav de la Torah en Ashuri, et que l'écriture de la, et que le lachon de la Torah, c'est lachon HaKodesh, les tfilim qui ne servent pas à être clamés, on doit les écrire en Ashuri, et pas en Bechol Lachon. Alors, peut-être l'explication de cette chose-là, c'est que... voilà, qu'on ne les clame pas. Et qu'on se sert de ces choses-là comme des objets. Et en quoi ça justifie l'usage du Ashuri? Plus Ashuri dans le sens plus que toute autre langue et toute autre ktav, ben, c'est que justement l'enjeu ici, c'est pas de lire ce texte et de le comprendre, ni de le faire résonner en soi, ni rien du tout. Tfilin et Mezuzot particulièrement, et c'est pour ça que la question n'est pas la même dans Tfilin et Mezuzot et dans Sota, où on dit Elou Nemarin Bechol Lachon et Elou Nemarin Belachon HaKodesh. Dans Tfilin et Mezuzot, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à faire fonctionner le texte de la Torah, l'écriture de la Torah, comme un signe pour nous, qu'on s'attache aux écritures de la Torah. Ou bien qu'on fixe à l'entrée de notre maison les paroles de la Torah. Et pour que cette chose-là, elle fonctionne comme un renvoi, il faut que le renvoi il soit précis, établi. C'est le lachon de la Torah. Le lachon de la Torah, stricto senso, ça veut dire tel qu'il est écrit, tel qu'il est reçu, tel qu'il est connu. La Mishnah, elle précise que dans les Sfarim, on peut se lancer et faire Sfarim de Chol Lachon. Et ça existait, par exemple. À l'époque des Tanaïm, ils ont traduit la Torah en Yévanite. Et en Mitzrayim, il y avait des Juifs qui lisaient la Torah en Yévanite. Mais leurs Tfilin, ils étaient quand même Lachon Ashurit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont maintenu à travers cette Tfilin, et d'ailleurs, ça c'est vrai encore aujourd'hui, la Torah, elle est Sfarim Nirtavim Bechol Lachon. Mais il n'y a que les Juifs qui mettent les Tfilin. La Torah, elle fonctionne, les Sfarim, ils fonctionnent dans toutes les langues. Mais qui c'est qui a sorti de la Torah de mettre les Tfilin ? Que les Juifs. Tfilin Mezuzot et la Nirtavot et la Ashurit, de nouveau, c'est une prescription, mais en fait, c'est aussi une description. Il n'existe pas de tefilin aujourd'hui qui ne soit pas en Ashurit. Et pourtant, si la Torah elle fonctionne dans tous les pays, dans tous les Lechonot, ils auraient pu en sortir la même chose que nous. Et à l'évidence, non. C'est sûr. Mais c'est juste une manière de dire qu'on peut entendre cette phrase de la Mishnah et comme une description et comme une mitzvah. Attends.
Est-ce qu'on peut mal dire que le fait de parce que tu viens de dire le fait que ce soit que le masculin et les deux sont toujours en fait à la chourie, même à des périodes où la Torah était étudiée en d'autres langues
était lue et clamée en d'autres langues. Mais je te reprends un peu sur Ashuri parce que il faut pas aussi qu'on se lève ce soir en pensant qu'il y a quelque chose dans Ashuri de particulier. Il n'y a rien de particulier. Et à la limite, c'est son absence de particularité qui le rend intéressant. Si ça se trouve, il est plus débile ce Ktav que tous les autres Ktav. Ce qu'on a mis en avant dans Ashuri, c'est juste le fait qu'il n'était pas connoté, qu'il n'était pas utilisé par une langue précise qu'il a ciblée. Mais si, peut-être qu'il est plus bête que les autres que t'as vu encore. Ce qu'on veut juste nous apprendre, c'est que la Torah, elle n'est pas figée dans une certaine écriture. Non, puisque on te dit les tefilin et les mezuzot, c'est des choses qu'on n'étudie pas, il faut les écrire en ashurit. C'est plus complexe. Le nom d'Hachem en ivri. Alors il y a des choses très intéressantes là-dessus. C'est qu'on a découvert des manuscrits écrits à Qumran où tout le texte il était en Ashuri, sauf le nom d'Hachem en ivri. Et ça peut vouloir dire une chose et son contraire et le reste. Et le reste aussi. Mais ça veut dire qu'il y a eu un problème avec le nom d'Hachem, justement. Puisque le nom d'Hachem, comment on va le passer dans une autre langue? Comment ils ont passé le nom d'Hachem en grec? C'est un problème. Alors peut-être ils ont fait comme nous on fait, qu'ils ont passé la manière qu'on a de le lire. Et ils ont traduit le terme de Adon, Yudke Vavke, ils l'ont traduit Kyrios, qui veut dire le maître. Théos. C'est pas insurmontable, mais c'est vrai que ça pose problème, quoi, le nom d'Hachem. Non. Ils sont complètement contre tout ce que je viens de dire. Ouais, moi je dis c'est à la poubelle le tsophène, il n'y a plus de tsophène. Puisque ça doit marcher dans toutes les langues, avec tous les alphabets, et il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mystère. Justement, on a brisé le sceau du mystère. Le mystère, c'est l'enseignement de la Torah. C'est ni son écriture, ni sa sonorité, c'est rien de tout ça. Tsophène, ou tsophène. Mais oui, mais je te dis, ce livre, tsophène, ça veut dire le code. Et justement, il n'y en a pas, il n'y a rien de tsafoun. Il n'y a pas de tsafoun. Moi, je pensais tout contraire. Mais ça veut dire qu'il lisait la Torah, le Shabbat, en grec.
Mais le fait que ça n'ait pas eu de. Ça ne se soit pas maintenu pour le temps. Est-ce que ça ne signale pas une forme d'échec de cette traduction?
Dans le temps. Pas, mais tu sais, même la traduction araméenne, et même que c'est marqué dans la halakha qu'il faut lire et traduire, aussi elle est tombée en désuétude. On l'utilise plus. C'est pas que le grec qui a subi ce sort, même la traduction de Ezra en araméen, elle a subi presque le même sort. On utilise maintenant l'araméen que comme source pour étudier, tu vois, pour dès qu'on. Mais on ne vit plus la kriya de la Torah en araméen, alors que ça devrait être. Mais c'est même pas expliqué, hein. Dans la halakha, c'est même pas expliqué comment on s'en passe. C'est juste on constate que les communautés ont fini par s'en passer. On aimerait bien dire ça comme ça. On sort avec un petit drapeau. Moi, ce que j'aime dans cette présentation, c'est que la parole, elle sert aussi à parler. tous. 2 heures on a tenu.